en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Une fois n'est pas coutume pour cet habit vert. Nous n'allons pas poser mille et une questions à notre invité. Pourtant, cette émission est destinée à retracer son parcours et, si possible, à dévoiler quelques pans de sa personnalité. Mais nous allons laisser parler un objet, pas n'importe quel objet, un objet académique par excellence, l'épée d'académicien, l'épée de monsieur Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, puisqu'il nous fait l'honneur et le plaisir d'être aujourd'hui l'invité de Canal Académie. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour, mais je vous dis tout de suite que le plaisir est pour moi.
Merci beaucoup. Êtes-vous d'accord pour suivre cette procédure de laisser parler votre épée?
Tout à fait. Bon. Je trouve ça une excellente idée. Je vais m'efforcer d'y répondre le mieux possible.
Voilà, alors c'est une épée qui vous a été remise il n'y a pas très longtemps, le 30 juin 2006, à la suite de votre élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez été élu le 12 décembre 2005. Monsieur le Président, permettez-moi tout de même, avant de laisser parler votre épée, de rappeler que vous avez été élu au fauteuil précédemment occupé par Madame Alice Saunier-Seyté. Vous êtes sans doute en train de préparer l'éloge que vous devez lui faire selon la tradition académique. Je crois qu'il est prévu pour bientôt.
Je crois que c'est le 29 janvier, m'a-t-on dit.
29 janvier 2007,
alors effectivement,
oui.
Je suis en train de lire tout ce qu'elle a écrit. D'abord un peu comme historienne, ses tournons, ses Boissy d'Anglas, etc. Et puis également, elle a rédigé beaucoup de notes en matière de géographie, compte tenu de ses nombreux voyages qu'elle a faits.
Voilà, on va rappeler aussi qu'elle a été ministre des universités. C'était dans les années 68 ou après 68 ?
Après 68.
Après 68. Et donc, qu'elle était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je voudrais aussi souligner que vous êtes un des juristes les plus éminents de France, mais que néanmoins, vous ne siégez pas dans la section de l'Académie législation, droit public et jurisprudence, comme on pourrait s'y attendre, où vous auriez retrouvé votre confrère, ami et même ministre, Jean Foyer. Jean Foyer. Vous avez eu beaucoup de relations avec lui ?
Ah oui, parce qu'il a eu la gentillesse de me prendre dans son cabinet. Au premier gouvernement Pompidou, j'étais avant au cabinet de Michel Debré, et quand Michel Debré a quitté Matignon, remplacé par Georges Pompidou, Foyer a été garde des Sceaux et Foyer m'a demandé de venir à son cabinet, ce que j'ai fait avec à la fois beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir. Car c'était une époque assez extraordinaire, où Jean Foyer, comme juriste, a proposé un très grand nombre de textes, notamment en droit privé, comme la réforme des régimes matrimoniaux, également la réforme des sociétés commerciales, sociétés anonymes. On avait fait un travail qui était tout à fait passionnant.
Et dans le discours que vous avez en réponse à Jean Foyer, justement, qui vous a remis votre épée, vous avez souligné dans ce discours que vous avez dit « Travaillant avec vous, c'est le droit et le service de l'État que l'on servait avant tout. » Valeur dont Michel Debré nous enseignait également le sens et l'importance. Quel maître exceptionnel vous avez été, quelle joie d'avoir été à vos côtés.
C'est vrai.
Véritablement ce que vous éprouviez pour Jean Foyer.
Tout à fait.
Pour Jean Foyer. Que vous éprouvez toujours.
Et que j'éprouve toujours. Voilà. Pour Jean Foyer et pour Michel Debré, car c'était des gens, et Foyer toujours, des gens qui avaient le sens de l'État. Il n'y avait que ça qui comptait. Donc on avait vraiment l'impression, en travaillant avec eux, qu'on faisait quelque chose d'utile pour le pays. Je dois dire que c'est des périodes de ma vie exceptionnelles. J'ai eu cette chance d'avoir de tels mentors.
Oui, ben voilà, au moins vous le reconnaissez.
Oh oui.
C'est une section, cette section dans laquelle vous siégez, qui est donc la section générale, où vous êtes tout de même en excellente compagnie, puisque vous siégez aux côtés de M. Édouard Bonnefous, qui fut ministre d'État lui aussi, M. Pierre Messmer, qui fut Premier ministre, Thierry de Montbrial, que nos auditeurs connaissent bien, et Jacques Delarosière aussi, puisqu'il fut l'ancien président du Fonds monétaire international, le cardinal Etchegaray.
Oui, oui, oui.
Voilà, dans cette section, M. Gabriel de Breuil, qui est l'actuel chancelier de l'Institut de France, Christian Poncelet, président du Sénat. Et Renaud Denoît de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État. Donc, vous aviez tout à fait votre place, en effet, comme président du Conseil constitutionnel dans cette section générale. Alors, maintenant qu'on vous a assis dans ce fauteuil académique, je voudrais relever un point dans votre carrière politique quand je regarde les diverses fonctions que vous avez occupées, qui sont nombreuses et variées, et elles sont toutes au service de l'État et de la France, en effet, je découvre une petite curiosité. Vous avez été deux fois député. Député des Hauts-de-Seine, en 1968 et jusqu'en 1973, et député de Haute-Savoie, de 88 à 98. Alors, deux départements dans le nom desquels figure le mot « haut ». Hauteur. Et vous êtes véritablement un homme des hauteurs, on le sait, puisque vous avez conquis quelques hauteurs. Vous êtes aussi un homme qui aimait prendre de la hauteur par rapport aux problèmes qui se posent.
Ouais, écoutez, je ne sais pas si j'y parviens, mais je m'y efforce dans les différentes fonctions que j'ai pu assumer. Je ne suis pas sûr, encore une fois, d'y être toujours parvenu, mais je cherche effectivement de dominer un peu les problèmes, dominer les sujets. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la hauteur physique. Je veux parler des montagnes, c'est un autre exercice.
Voilà,
ce qui
ne
m'empêche
en
pas de penser d'ailleurs que les efforts qu'on doit faire sur le plan donc, de la discipline sportive, qui est l'alpinisme, peuvent être utiles dans la vie. Ça nous permet peut-être effectivement de prendre un peu de hauteur sur certains problèmes.
Je crois qu'après ce préambule, nous pouvons donc laisser parler votre épée, puisqu'elle a toute une histoire, cette épée, et c'est d'abord une histoire de famille, parce que c'est une épée qui a appartenu à l'un de vos oncles, et que dans votre famille, vous dites « je suis né dans un bain de juristes ».
C'est vrai. Je suis le fils de Jean Mazot, qui était donc magistrat à Grenoble, et avant d'être à la Cour de cassation. Et puis, j'étais entouré de mes deux oncles, les frères jumeaux, Henri et Léon Mazot. Or, c'est vrai, mon grand-père étant d'ailleurs un ancien premier président de la Cour de cassation, j'étais un petit peu, par une sorte d'atavisme, poussé au droit.
Sur cette épée, donc, une épée que votre oncle Henri Mazot, qui était aussi académicien à l'Académie des sciences morales et politiques, siégé pendant 25 ans, jusqu'en 1993, donc il est mort il n'y a pas très longtemps. Sur cette épée, donc, vous avez ajouté des symboles plus personnels, et c'est sur ces symboles que vous allez nous expliquer quelques phases de votre vie et de votre parcours. Alors, vous avez ajouté un dauphin, une montagne, deux lettres, un sphinx et une croix de Lorraine. Alors, le dauphin, pourquoi un dauphin sur l'épée d'Henri Mazot et de Pierre Mazot ?
Le dauphin, c'est un peu le rappel de toute ma jeunesse, puisque j'ai passé mon enfance à Grenoble, où mon père était magistrat. C'est donc le Dauphiné. Et c'est pour moi des souvenirs absolument passionnants, puisque j'y ai découvert en quelque sorte la montagne. Et c'est une ville très agréable. J'y ai fait donc beaucoup de ski et j'ai débuté, je ne veux pas dire ma carrière d'alpiniste, mais enfin j'ai débuté la passion que j'ai pu avoir pour la montagne. Donc ce sont des souvenirs qui me restent. Et voilà pourquoi j'ai mis le dauphin, c'est toute ma jeunesse, c'est le Dauphiné.
C'est le Dauphiné. Mais on sait aussi que le dauphin, c'était le nom du fils du roi
Absolument.
De France. Donc il y a effectivement un lien que vous avez expliqué. Alors, la montagne, est-ce que vous vous souvenez des premières courses en montagne quand vous étiez enfant ? Alors, c'est avec votre père que vous les
faisiez ? Oui, c'est avec mon père qui était un alpiniste.
Lui aussi,
et
oui.
Lui aussi. Et il m'avait amené dans le massif de Loisans, qui est à côté de Grenoble. Et nous avions fait des courses relativement faciles, d'ailleurs, je dois dire. Mais c'est là où a débuté ma véritable passion pour la montagne. Alors après, je me suis lancé dans des itinéraires, dans des courses certainement plus difficiles. Mais enfin, j'ai pris contact avec la montagne quand j'étais enfant à Grenoble.
Et alors la montagne, elle vous amenait jusqu'en Himalaya, l'Everest, puisque l'Everest est tout de même attaché à votre carrière, j'allais dire, d'alpiniste. Tout de même, on ne fait pas l'Everest en un jour, vous avez dû beaucoup vous entraîner. Comment ça se passait ? C'était toute une équipe ?
Oui, j'avais choisi des garçons avec lesquels j'avais déjà fait des courses dans les Alpes, que je connaissais bien, parce que passer 3 mois ensemble, il vaut mieux être très amis. Et donc, c'était de très bons alpinistes. Et j'avais déjà fait une expédition, j'étais membre dans une expédition internationale représentant mon pays, la France, dans cette expédition. Mais nous avions échoué à cause des mauvaises conditions atmosphériques à l'Everest. Et j'avais donc, effectivement, le grand désir d'y retourner. Et j'ai eu cette chance en 1978, donc avec quelques amis. Et nous avons eu le bonheur de pouvoir fouler le toit du monde et d'y mettre le drapeau français, ce qui me faisait quand même un certain plaisir.
Oui, certainement. Donc, c'était le 15 octobre 1978.
C'est presque un anniversaire.
Presque un anniversaire, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 24, en effet. Donc, on comprend que sur votre épée figure une montagne, donc, qui est le symbole de cet amour que vous avez porté à la montagne. Et la montagne elle-même, elle a développé des valeurs qui sont, je crois, les valeurs du sport en général. Vous avez beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ce que le sport peut apporter.
Oui, et c'est vrai que je crois aux vertus de l'effort. Bien. Et ça, c'est les alpinistes, comme d'ailleurs dans toute discipline sportive, quelle qu'elle soit, encore que je tiens à l'alpiniste pour autre chose que la discipline sportive, parce qu'on risque sa vie, c'est un autre problème. Mais j'ai eu l'occasion d'ailleurs quand vous dites j'ai beaucoup écrit, j'ai eu l'occasion quand j'ai été ministre des Sports, avec précisément Mesmer comme Premier ministre d'ailleurs, j'ai pu faire la première loi sur le sport, où j'ai essayé d'amener la jeunesse de France à pratiquer plus volontiers le sport. Je ne sais pas si j'y suis parvenu.
Ça se pratiquait peu avant, dans les écoles, je veux dire.
On manquait beaucoup d'équipements. Dans les écoles, ça ne marchait pas très fort. Maintenant, je crois que les choses vont mieux, en tous les cas. Incontestablement, dans le sport d'élite, nous avons des équipes de France dans différentes disciplines qui marchent très bien. Je crois que le sport français s'est beaucoup développé dans la notion de sport de masse également, puisque nous avons beaucoup plus de pratiquants et que des gens de quelque âge que ce soit pratiquent pour un certain nombre de raisons, peut-être pour la santé d'abord, pratiquent effectivement une discipline sportive et je ne peux que m'en féliciter.
Vous pensez toujours que dans l'éducation d'un jeune garçon ou fille, la dimension sportive est essentielle ?
Ah oui, j'en suis convaincu. Et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui qu'hier, et compte tenu de tous les phénomènes nouveaux que nous connaissons, du fait de l'immigration ou autre, de toute cette jeunesse totalement désemparée, notamment dans les grandes banlieues. Et je crois que si nous amenions ces jeunes à pratiquer une discipline, entourés bien sûr d'éducateurs compétents, ce que les Américains ont très bien fait dans des banlieues new-yorkaises, aujourd'hui, ils ne connaissent plus les mêmes événements qu'ils ont connus il y a 25 ans, par effectivement la pratique sportive. Je pense qu'on devrait faire la même chose chez nous. Alors développer les équipements, bien sûr, développer le nombre des éducateurs. Mais je suis convaincu que les jeunes pourraient extérioriser la force de cette adolescence dans l'exercice physique, dans le sport, le football, le sport d'équipe, etc. En plus, le sport a quelque chose qui me paraît primordial, c'est qu'on respecte l'arbitre quand on joue au football ou au basket.
Il y a des règles.
Il y a des règles. Ça apprend à ces jeunes, en réalité, peut-être de façon inconsciente, mais ça leur apprend à respecter la loi. Car on respecte la règle sur un terrain de football, de basket, je ne sais pas moi. Donc, de façon inconsciente, on peut comprendre qu'il y a une époque où il faudra respecter la loi.
Absolument.
C'est la règle. C'est pour ça que je souhaiterais beaucoup que parmi tous les projets pour essayer de se sortir des difficultés, il y a un an, on connaît les difficultés que nous avons rencontrées dans les banlieues parisiennes, il faudra absolument développer le sport avec, je répète, des éducateurs très compétents.
Bien sûr. Vous-même, Pierre Mazot, vous êtes encore passionné par le sport, vous suivez les résultats, vous êtes très proche des milieux sportifs.
Tout à fait, je regarde les résultats, bien sûr, des Français, mais je suis très près le sport parce que je vois une évolution qui parfois d'ailleurs m'inquiète. On pourrait en parler, c'est l'intrusion de l'argent dans le domaine du sport et ça pose un véritable problème. Mais je suis ça d'assez près et plus particulièrement, bien sûr, de ma propre discipline qui est l'alpinisme.
Vous dites cela le jour où justement on a appris qu'il n'y a pas longtemps, les députés, hier je crois, ont voté l'autorisation que les clubs de football passent en bourse, en effet. Donc on voit que le sport...
Là, je comprends les avancées du législateur dans ce domaine, à la demande des présidents de grands clubs de football, à l'instar de ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres pays, comme en Angleterre, en Italie. Mais j'ai toujours dans ce domaine une inquiétude, car c'est vrai que le sport manie beaucoup d'argent, que tout est devenu très professionnel, il n'y a plus de sport amateur en France. Enfin, je parle pour les grandes disciplines, n'est-ce pas, qui bénéficient de la télévision, de la grande médiatisation. Mais là, j'ai une inquiétude, parce que vraiment, il y a des sommes considérables qui amènent les sportifs, poussés par leurs sponsors, à faire des performances de plus en plus pointues, d'où, effectivement, le phénomène du dopage. Et dans le sport, on se dope, précisément poussé par ses sponsors, pour faire le mieux possible. Il y a donc, par cette dérive de l'argent, j'ai quelques inquiétudes. Mais enfin...
Peut-être sont-elles partagées, en effet, par d'autres. Je le suppose.
Oui, tout à fait.
Sur votre épée, donc, Pierre Mazeaud, un dauphin pour le Dauphiné, la montagne pour la montagne que vous avez tant pratiquée et que vous avez vaincue, si on peut dire, parce que je ne sais pas si c'est une bonne expression de dire qu'on a vaincu la montagne.
Oui,
enfin bon, elle s'emploie.
Oui, elle s'emploie. Elle s'emploie.
Deux lettres, les lettres J et S.
Oui, alors c'est le rappel de mon passage au ministère, quand j'avais la responsabilité du sport français comme ministre, au ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai là de très très bons souvenirs, je crois que nous avons fait un bon travail au service de l'État, dans la mesure justement où on a réussi à faire voter par le Parlement la première loi en 75 sur le sport. Je voulais montrer à l'opinion publique, aux Françaises et aux Français, que le sport était un phénomène social, et que la pratique du sport avait évidemment incontestablement des effets sur la santé, donc pas seulement sur la santé de l'individu qui pratique, mais je dirais presque la santé sociale dans ce pays. Et nous étions très fiers d'avoir fait ce premier texte, dans la mesure où il n'y avait pratiquement pas de disposition, même réglementaire, très peu, en tous les cas aucune disposition législative. Alors j'ai voulu pousser le Parlement à s'intéresser à cette question et par là même, au travers de la loi, bien sûr, à l'opinion publique, à prendre conscience de la nécessité de ce phénomène. Alors, c'était de très bons souvenirs. J'avais une très bonne équipe autour de moi. Nous étions très peu nombreux dans ce ministère rue de Châteaudun et je crois qu'on a fait du bon travail. En tous les cas, c'est là où j'ai pu allier ma passion pour le sport et finalement le service de l'État.
Voilà, donc c'est quand même une carrière bien remplie. Alors, il y a aussi sur votre épée le mot « lex », dont on se doute évidemment qu'il veut dire la loi, mais qui est en souvenir de votre présidence de la commission des lois.
C'est ça, j'ai été plusieurs années de suite, au cours de deux législatures, président de la commission des lois. J'ai d'ailleurs succédé à Jean Foyer. On se retrouve. Et là, j'ai... C'est dans ma vie et des moments tout à fait exceptionnels. Et car nous avions réussi, c'était un peu Jean Foyer qui m'avait inculqué cette nécessité de présider de telle ou telle manière, il n'y avait pas au sein de la commission des lois de débat à caractère politique. Il y avait pourtant tous les groupes politiques qui étaient représentés, puisqu'on est dans les commissions au Parlement, à la représentation proportionnelle. Donc il y avait la gauche, il y avait la droite. Et en réalité, nous avions exclu toute discussion politique sur les textes. Notre seul but était d'améliorer le mieux possible les projets du gouvernement. Et on a eu des discussions vraiment passionnantes, parce que seul le droit comptait. Et je crois qu'on a fait un assez bon travail. En tous les cas, pour moi, c'est un moment dans mon existence qui a été assez exceptionnel. Il a duré plusieurs années.
Oui, 87, 88, 93, voilà, 98. Voilà. Donc, il y a c'est eu ça. En effet 6 ou 7 années.
Et bon souvenir, beaucoup d'amitié avec les parlementaires de gauche comme de droite, d'ailleurs. Et encore une fois, j'ai souvent la nostalgie de ces très bonnes périodes.
Il y a aussi, alors là on est quand même un peu surpris, sur votre épée, un sphinx. Alors est-ce en souvenir de l'Égypte ?
Non, alors là c'est mon passage au Conseil constitutionnel, dans la mesure où vous savez que nous sommes tenus d'une obligation de réserve, donc au silence. Et à l'entrée du Conseil constitutionnel, il y a le sphinx de Fenara, qui est très beau. Et pour moi, c'était un rappel dans la mesure où, effectivement, c'est la traduction d'une obligation de réserve, on doit se taire. Alors, voilà pourquoi j'ai mis ce sphinx comme dernier symbole, je crois, de l'épée. Et j'ai donc, par tout ce que nous venons d'évoquer, rappeler un peu ma carrière, si je peux employer ce terme. C'est un grand terme, mais enfin...
Mais tout de même, le devoir de réserve, que l'on comprend fort bien, ne vous empêche pas de rappeler, surtout pour nos auditeurs qui nous écoutent de l'étranger, il y en a tout de même 25% dans nos auditeurs, la mission du Conseil constitutionnel, son rôle.
Son rôle, en réalité, est de dire si les lois votées par le Parlement sont ou non conformes avec la Constitution et avec les principes fondamentaux, ainsi qu'avec ce que nous appelons le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire le préambule de la Constitution et bien sûr la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est un travail tout à fait passionnant et nous devons dire ce que nous pensons de la loi au regard donc de sa constitutionnalité dans la mesure où nous sommes saisis. Naturellement, nous ne sommes pas saisis de plein droit de tous les textes. Il faut, depuis 1974, que 60 députés ou 60 sénateurs, voire les deux, 60 députés et 60 sénateurs, nous saisissent. Alors par définition, je tiens à préciser que nous sommes saisis naturellement par l'opposition qui ne vote pas les textes, ce n'est pas la majorité qui l'a voté qui nous demande de censurer, mais l'opposition nous indique dans sa mémoire, au cours de la saisine, que telle ou telle disposition du texte leur apparaît contraire à la Constitution et nous devons le vérifier. Alors si telle disposition est contraire à la Constitution, nous censurons, c'est-à-dire que le texte sera publié sans les dispositions que nous avons censurées. Et nos décisions, c'est la Constitution qui le précise, puisqu'il y a un titre sur le Conseil constitutionnel, nos décisions s'imposent à toute autorité administrative et judiciaire. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte le dernier mot.
Vous avez le dernier mot, mais la loi a été votée, elle ne sera donc jamais appliquée, ce sera une loi qu'il faudra revoter, ou enfin, il faudra redébattre du sujet en tout cas.
Évidemment, si nous censurions toute la loi, il en faudra une autre.
Non, c'est simplement...
La censure d'une loi intégrale, c'est quand même assez rare. Mais telle disposition, l'article 2, l'article 7, est contraire à la Constitution, donc nous le supprimons. C'est-à-dire que la loi peut être publiée à la suite, bien sûr, de la promulgation par le président de la République, la loi peut être publiée, mais elle le sera sans les articles que nous avons censurés.
C'est cela, c'est donc limitatif dans un certain cadre.
Ah ben oui, parce qu'il y a quand même des dispositions qui sont conformes à la Constitution, Dieu merci, mais nous ne censurons que celles qui s'opposent ou sont contraires à la Constitution ou au bloc de constitutionnalité, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails.
Alors, on sait que le Conseil constitutionnel comporte 9 membres, qu'on appelle toujours les 9 sages, mais y a-t-il beaucoup de personnes en plus qui travaillent à ce Conseil constitutionnel ?
Oui, d'abord, je précise que nous sommes 9 membres, mais en fonction d'une disposition constitutionnelle, nous sommes en réalité 10, car les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil. Donc, aujourd'hui, M. Valéry Giscard d'Estaing siège au Conseil comme 10e membre de droit. Nous sommes au Conseil, donc entourés, comme vous venez de le rappeler, d'un petit staff qui est tout à fait remarquable, mais peu nombreux. Nous avons un secrétaire général, Jean-Éric Chotel, qui est tout à fait exceptionnel. C'est sans aucun doute un des meilleurs juristes français, qui est du Conseil d'État, qui a d'ailleurs un curriculum très important, puisqu'il a fait également Polytechnique. Il était au Conseil d'État et il est venu au Conseil constitutionnel comme étant un des meilleurs juristes du Conseil d'État. Et il est le secrétaire général, et par là même, il est chef de ce qu'on appelle le service juridique, où il n'y a que 3 membres. Vous voyez, c'est une toute petite,
petite
structure. Les 3 membres, il y a toujours un administrateur de l'Assemblée nationale, venant notamment de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un domaine où nous sommes peut-être un peu faiblards, je m'excuse de ce terme, c'est sur les lois de finances, et on a vraiment besoin de grands techniciens. Et puis nous avons un membre des juridictions administratives et un membre de la Cour de cassation, pour toucher toutes les formes diverses du droit public ou du droit privé. Vous voyez, donc c'est tout petit, c'est 4 personnes, donc y compris le secrétaire général, accompagnent le rapporteur, car le président désigne, lorsqu'il a une saisine, un rapporteur sur le texte qui s'entoure donc de ces 4 personnes. Ils se mettent à travailler et je dois dire que sur chaque texte et chacun des membres auxquels on donne un dossier complet travaille également de son côté pour préparer la délibération. Et
ça prend beaucoup de temps. C'est long ou c'est,
oui, c'est
relativement rapide?
C'est assez long, alors même que nous avons un délai dans la Constitution qui est d'un mois, nous devons rendre notre décision. Il ne faut évidemment pas laisser les lois en suspens trop longtemps, n'est-ce pas ? Alors nous avons un délai d'un mois. Je dirais que c'est un peu court, surtout quand il y a plusieurs textes à voir. Et c'est un travail qui est quand même assez difficile, très prenant, et je dirais, moi, passionnant. En tous les cas, pour moi, il l'a été.
Alors, ce sphinx, donc, qui est l'emblème du Conseil constitutionnel dont nous parlions, ou dont vous parliez, Monsieur Pierre Mazaud, et à ce sphinx, symbole de discrétion et de silence, le sphinx a aussi des griffes. Il y en a peut-être qui voudraient se heurter au Conseil constitutionnel. Alors, le sphinx est là pour rappeler que...
Voilà. Le Conseil se défend, et c'est vrai que nos décisions, par définition, si nous censurons telle ou telle disposition. Par là même, la majorité qui a voté le texte est évidemment mécontente. Si nous ne censurons pas, alors que nous avons été saisis par l'opposition, laquelle opposition estimait que telle disposition était contraire à la Constitution, si nous disons non, c'est l'opposition qui est mécontente.
Donc vous mécontentez toujours quelqu'un.
On mécontente toujours quelqu'un. Mais enfin, je dois dire que si cette institution a été, il y a encore quelques décennies, très critiquée, notamment par certaines familles politiques, notamment le Parti communiste a toujours considéré que c'est aux parlementaires d'avoir le dernier mot. Aujourd'hui, je dois dire, le Conseil est rentré un peu dans les mœurs, si je peux employer cette expression, c'est-à-dire qu'il n'est plus critiqué par quiconque. Sortent les décisions, nos délibérations peuvent l'être, mais l'institution est reconnue. Plus personne ne demande sa suppression. C'est une institution quand même relativement récente dans l'histoire de la République.
Oui.
C'est la Constitution de 58. Et en réalité, c'est à partir de 74 que le Conseil a eu un rôle à jouer, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il pouvait être saisi par les députés ou les sénateurs.
Pierre Mazaud, dernier symbole sur votre épée, il y en a tout de même un dernier, on ne l'a pas encore épuisé tout à fait, c'est la Croix de Lorraine, qui évidemment rappelle votre attachement au gaullisme. Vous vous reconnaissez toujours comme gaulliste. Quel souvenir avez-vous conservé du général de Gaulle ?
Écoutez, puisque vous parlez au travers des symboles, c'est vrai que je montre par là même mon attachement au gaullisme, naturellement au général de Gaulle, et par là même mon attachement aux institutions. Car je considère que la Constitution du général de 58, qui est en réalité rédigée, comme on le sait, en grande partie par Michel Debré, est une bonne Constitution. Et à cette époque, il ne m'appartient pas de faire de la politique devant vous, mais à cette époque où tout le monde parle de modifier la Constitution, je m'efforce de rappeler que la Constitution est bonne, à condition bien sûr de l'appliquer sans aucun détournement. Et nous sommes dans une année effectivement difficile, c'est une année électorale, et je regrette que dans toutes les familles politiques, on parle de modifier la Constitution. En réalité, elle est excellente. Alors ce symbole, effectivement, de la Croix de Lorraine, c'est mon attachement au général, à toute la famille gaulliste, et à tout ce qui a été fait, effectivement, du temps du général. Voilà, une époque où c'était le sens de l'État qui dominait. Il n'y avait que le sens de l'État. On l'a rencontré chez Michel Debré, chez Jean Foyer, puisque nous en parlions tout à l'heure, chez Pierre Messmer, bien sûr. Et je dois dire que c'était une très, très grande époque pour notre pays, qui était un pays estimé dans le monde entier, et notamment la personnalité du général de Gaulle, même quand il lui arrivait, effectivement, de rappeler un certain nombre de principes et de nous mettre en difficulté avec tel ou tel autre pays. Mais c'était une force étonnante. Et je répète encore une fois, voilà l'effort, voilà le sens de l'État.
Et je voudrais, pour vous remercier d'être venu au studio de Canal Académie, rappeler quelques-uns des titres des ouvrages que vous avez publiés. Montagne pour un homme en 71, c'était donc avant l'Everest. Donc vous avez écrit sur la montagne avant l'expédition de 78.
Oui, parce que j'avais fait beaucoup déjà de montagne à cette époque. D'ailleurs, l'Everest n'est pas une montagne difficile, je viens de le préciser. J'ai fait des choses beaucoup plus difficiles dans les Alpes. Et alors, j'avais écrit ce livre, Montagne pour un homme nu, où je racontais mes premières grandes courses, les grandes, ce qu'on appelle des premières, quand ce sont de nouveaux itinéraires qu'on découvre. Et là, j'ai raconté ça un petit peu avec une partie de ma jeunesse, enfin. Ça n'a pas un intérêt exceptionnel, je vous le dis tout de suite.
Non, non, mais ça fait partie, parce qu'on va quand même voir qu'après, vous avez publié Everest en 78, donc là, voilà, on voit tout de suite de quoi ça parle. Sport et liberté en 80, on voit aussi que c'était juste après, quelques années après, votre passage au ministère de la Jeunesse et des Sports.
Absolument.
Nanga Parbat, montagne cruelle. Alors, je dois dire que j'avoue totalement mon ignorance. Je ne sais pas où est le Nanga Parbat.
Nanga Parbat est au nord du Pakistan. C'est également un sommet de 8000, pratiquement à la frontière chinoise. Et là, je dis montagne cruelle parce que c'est une montagne où il y a eu énormément de morts. C'est un sommet là difficile, surtout très dangereux compte tenu des dangers objectifs, avalanches de Chirac, etc. Quand nous étions au Nanga Parbat, il y avait déjà eu près de 60 morts avant notre expédition.
Et des cailloux et des mouches ou l'échec de l'Himalaya. Ça, c'est en 1985. Pourquoi l'échec ?
C'est quelques années après, nous étions au Hidden Peak, qui est un autre sommet de 8000. Et nous avions échoué compte tenu des très mauvaises conditions atmosphériques. Alors, pourquoi des cailloux et des mouches ? Parce que au moment de la partition Inde-Pakistan, les Pakistanais n'hésitaient pas à dire, compte tenu de ces terrains totalement désolés de cailloux et de mouches, qu'une partie de l'Himalaya, les Pakistanais disaient volontiers, au moment de la partition, les Indes ne nous ont laissé que des cailloux et des mouches. Voilà, j'avais donc repris cette expression que je trouve assez belle, alors que dans le Pakistan, il y a quand même des endroits, évidemment, qui ne sont pas cailloux et mouches, mais toute cette zone du nord,
très désolée,
c'est véritablement un désert où on poussait des sommets de 8000 mètres.
Et l'ouvrage de 1995, je ne sais pas si c'est le dernier, Rappel au règlement, c'est un ouvrage...
Oui, alors c'était à l'Assemblée nationale, je présidais la commission des lois, et il est vrai que j'avais une bonne connaissance du règlement de l'Assemblée, et il m'arrivait donc, en fonction de ce règlement, d'interrompre très souvent les ministres, voire le président de l'Assemblée lui-même, et bien sûr mes collègues. Alors on m'avait considéré comme le roi du rappel au règlement. C'est vrai que j'en faisais beaucoup, j'en abusais sans aucun doute. Et donc j'avais fait un livre pour rappeler cette période et en même temps mes idées sur un certain nombre d'idées sur la décentralisation, sur le cumul des mandats pour montrer que je réfléchissais quand même à ces problèmes au-delà même des textes eux-mêmes, n'est-ce pas ? Voilà.
Alors, Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel va se terminer pour vous en 2007, puisque le mandat est de 3 ans, que vous y étiez depuis 2004. C'est donc un petit peu tôt, puisque nous
Le mandat est de 9 ans.
9 ans.
Mais je n'ai été président que depuis 2004, voilà. Au départ de mon ami Yves Guéna.
Alors, c'est un petit peu tôt. On est en octobre 2006, on ne va pas vous poser de questions indiscrètes, mais peut-être, bon, il reste du temps pour vous pour travailler au Conseil constitutionnel. Mais après, est-ce que vous avez un livre en projet, par exemple, ou un projet...
Écoutez, mes amis me disent tous d'écrire. Je suis peut-être un peu paresseux, alors je ne sais pas, mais je le ferai.
Paresseux, ce n'est pas un adjectif qui vous convient.
Si, un petit peu quand même, enfin, pour l'écriture. Mais je m'y mettrai sans doute, parce que je crois... avoir certaines choses à dire et au travers peut-être du déroulement de certaines fonctions que j'ai pu exercer et surtout au travers de mes amitiés gaullistes avec des hommes politiques, aussi bien d'ailleurs de droite que de gauche, je voudrais défendre les institutions. Parce que je trouve, encore une fois nous sommes dans une année électorale, je trouve qu'il est bon de rappeler les vertus de la Constitution de 1958, même avec sa réforme de 1962, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc, si je ne suis pas trop paresseux, je pense que j'écrirai quelque chose, oui.
Alors, nous formons des vœux pour le succès de ce futur ouvrage, en vous remerciant, Monsieur Pierre Mazeaud, d'avoir accepté l'invitation de Canal Academy. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. J'ai été ravi de ce moment passé avec vous.
Merci à vous.